Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Géraud et vous êtes actuellement sur le podcast de Dr Love, le service d'accompagnement pour célibataires que j'ai fondé. Dans ce podcast, je parle d'amour à l'heure des apps de dating, seul ou avec des experts, et avec une ambition, vous donner les clés pour vivre l'émotion ultime qu'est l'amour. En espérant que ça vous plaise et surtout que ça vous aide, bonne écoute. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Cécile Guéret, que j'ai récemment découverte dans une émission de France Inter. Laissez-moi vous la présenter en quelques mots. À la base, Cécile est journaliste en presse écrite et radio. Elle a d'ailleurs longtemps officié dans le magazine Psychologie. Puis un jour, elle a fait une rencontre qui a changé sa vie. Une rencontre avec Gestalt. Alors non, il ne s'agit pas d'un bel Allemand en Birkenstock, mais d'une méthode thérapeutique, la Gestalt thérapie. Elle va d'ailleurs me dire après si je prononce bien ce mot. Elle en a fait la découverte d'abord lors d'un reportage, puis ensuite en tant que patiente et désormais en tant que praticienne. Et plus globalement, il y a un sujet qui semble la passionner, celui de l'amour et du couple. Tout d'abord car elle propose des thérapies de couple, mais aussi et surtout car elle a écrit un superbe bouquin à ce sujet, « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse ». C'est donc pour toutes ces raisons, mais surtout la dernière, que ma curiosité m'a poussé à inviter Cécile dans ce podcast afin de parler d'amour, de couple et de rencontres à l'heure d'Internet. Bonjour Cécile.
Bonjour Antoine.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté cette invitation, vraiment. Je voulais d'ailleurs vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite présentation ? Est-ce que je n'ai pas dit d'énormes bêtises ?
Non, tout est bien, merci beaucoup.
J'ai bien prononcé le mot Gestalt ?
Oui, bravo, parce que c'est vrai que c'est un peu imprononçable, hein, on ne va pas se le cacher.
J'ai regardé la phonétique.
Félicitations. Oui, non, c'est tout à fait ça, effectivement. Alors, la Gestalt, pour répondre un petit peu à votre question, c'est une méthode de psychothérapie. C'est un mot allemand, hein, Gestalt. Et en fait, nous, ce qu'on travaille en Gestalt thérapie, c'est la relation de la personne avec son environnement, la manière d'entrer en contact, d'être en contact avec les autres, avec son environnement en général. Et donc, c'est vraiment une thérapie. On va travailler ces questions relationnelles là plus particulièrement.
Donc, si je comprends bien, il y a un aspect assez concret de regarder des situations précises et de
exactement.
Des analyses.
Ouais. On va regarder des situations précises et on va regarder l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est autant ce qu'on pense de soi, mais aussi ce qu'on vit en termes de sensations, d'émotions, de croyances aussi, de vision du monde. C'est-à-dire que c'est une manière de concevoir la personne vraiment dans sa totalité.
Ok, super intéressant. On va pouvoir en parler un peu tout au long de cet entretien. Alors, comme je le disais en intro, vous avez écrit, selon moi, un super bouquin. Je redis le titre.
Merci.
Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Pourquoi je le trouve super ? Car justement, il est concret. Dedans, on trouve plein de témoignages sur lesquels vous allez vous baser pour développer vos idées. Et en plus, vous proposez des petits exercices tout au long. Et finalement, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai l'impression que c'est un petit guide pour apprendre d'abord à mieux se connaître, dans le but de mieux découvrir l'autre, cette fameuse altérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit résumé ?
Oui, tout à fait. Effectivement, c'était vraiment le souhait de faire à la fois, il y a un côté essai, c'est-à-dire que vraiment, je développe une réflexion à la croisée de la psychologie et de la psychothérapie, mais aussi de la sociologie, du couple, de la rencontre amoureuse, de l'histoire et de la philosophie. Donc, il y a tout un aspect réflexion sur ce thème-là. Parce que je pense que c'est vraiment important, on aura l'occasion d'en reparler, mais on n'est pas un individu comme ça, isolé, complètement déconnecté du monde. On est pétri d'une culture, on est pétri d'une vision du monde. Et finalement, et c'est ça que je vois dans la psychothérapie, c'est que souvent les gens se culpabilisent énormément comme s'ils étaient les seuls responsables ou fautifs même de ne pas rencontrer l'amour. Alors qu'en fait, c'est aussi toute une vision culturelle de l'amour qui rend la chose extrêmement difficile. On aura l'occasion d'en reparler,
Ah
je
oui,
pense.
Oui. On va justement pouvoir en parler. Vous allez voir pour les gens qui m'écoutent, j'aime bien qu'il y ait un aspect assez concret, justement. C'est un mot que je vais beaucoup employer. Donc, pour qu'ils puissent justement avoir se projeter. Alors, avant, j'aimerais bien aussi comprendre ce qui vous a poussé à écrire ce livre et plus globalement à vous intéresser autant aux rencontres, à l'amour et au couple, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez aussi une chaîne YouTube. Rappelez-moi le titre, Psy Buissonnière.
La Psy Buissonnière. Pas facile à prononcer non plus, décidément.
Dans laquelle vous allez pas mal quand même traiter des sujets relatifs à l'amour, au couple, à la rencontre. Alors, d'où ça vient?
Alors, bah déjà, l'intérêt pour la question de la rencontre amoureuse, c'est un intérêt qui est venu de ma propre expérience, où quand j'étais célibataire, je trouvais ça vraiment compliqué, en fait, de rencontrer quelqu'un. J'étais pas mal paumée dans comment on doit faire, comment on doit s'y prendre, qu'est-ce que l'autre attend de moi, quels signes je suis censée envoyer ou pas, quel type de personne j'ai envie de rencontrer ou pas. Donc ça a été des questionnements personnels assez intenses. Il y a aussi que dans mon travail, vous l'avez rappelé, j'ai été longtemps journaliste à psychologie. Et dans mon travail à psycho, bah, j'étais pas mal amenée à travailler, à faire des interviews sur la question du couple ou de l'amour, du célibat et tout ça. Donc j'ai eu pas mal d'interviews sur ces thèmes-là. Donc ça m'a vraiment aussi donné toujours cet intérêt de creuser ce thème. Et puis ensuite, quand je me suis formée à la gestalt-thérapie, je me suis rendu compte que c'était pas justement, que c'était pas que moi qui avait cette difficulté-là, mais que c'était une problématique qui était largement partagée, que je rencontrais beaucoup chez mes patients, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social ou socio-culturel. Et du coup, ça m'a intéressée de questionner, bien sûr, parce en thérapie, on regarde toujours l'histoire de la personne, sa vision du monde, sa manière à elle de vivre les choses, d'empêcher parfois ou de peut-être se préserver de certaines souffrances. Enfin, il y a tout ça aussi dans l'empêchement de la rencontre amoureuse. Mais ça, j'ai aussi regardé ce qu'il pouvait y avoir de commun. Finalement, il y a toutes les histoires singulières, mais il y a aussi quelque chose de commun dans ce qu'on vit, de la difficulté à rencontrer l'autre.
Oui, en même temps, chaque histoire est unique, mais en même temps, il y a plein de problématiques communes que les célibataires vont partager entre
Voilà, exactement.
eux. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce que vous pensez des sites et des applications de rencontres?
Bah, j'ai pas. En fait, je pense que c'est un outil qui est intéressant, qui semble être un peu incontournable quand même aujourd'hui. En tout cas, dans le processus de rencontre, la plupart des gens passent par là, même s'ils peuvent ensuite s'en détourner parce que c'est aussi des outils qui peuvent être décevants, qui peuvent être voilà, ne pas correspondre à la personne. Je pense qu'il y a à la fois des aspects qui sont très intéressants parce que ça peut être un bon soutien à la dynamique de rencontre. Mais pour le dire de manière assez générale, il y a aussi quand même des inconvénients qui sont liés aux sites et aux applis, notamment le fait que ça peut créer beaucoup d'espoir et ensuite il y a un peu un effet voilà, on va y passer beaucoup de temps, on va beaucoup s'investir et du coup, quand ça marche pas, bah, la déception va être à la hauteur de cet investissement-là. Donc ça peut créer aussi beaucoup de déception. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Disons que globalement, je trouve ça intéressant, mais dans une dynamique d'un processus plus général. De même que c'est intéressant de s'inscrire dans des associations voilà, même des associations sportives, culturelles, qu'importe, mais voyez que ce soit une dynamique générale d'aller vers l'autre, de rencontre de l'autre, qui ne soit pas que centrée sur la recherche amoureuse, mais qui soit une ouverture au monde et une ouverture aux autres de manière plus générale.
Ouais, finalement, comme vous le dites bien au début, c'est un outil. Puis après, le résultat va aussi pas mal dépendre de un peu de la manière dont on va s'en servir et dans quel état d'esprit on y va et dans quel but.
Voilà, aussi probablement. Oui.
Ok, de votre expérience, quels sont les principaux problèmes que vont rencontrer les célibataires dans leur parcours sentimental à l'heure d'Internet? Alors, dans votre bouquin, je me permets de revenir dessus, mais vous l'avez découpé en plusieurs parties dont les titres d'ailleurs sont trop chouettes. Mais par exemple, il y a ce que vous appelez le trop bien connu, il y a aussi les idéaux et les injonctions contradictoires, j'aimerais bien les grandes peurs aussi. Donc, il y a beaucoup de problématiques que vont rencontrer les célibataires, mais vous diriez c'est lesquelles les principales?
Bah, je pense que vraiment, et puis c'était ça l'axe que j'ai pas mal creusé effectivement dans mon livre, ce que j'avais repéré disons vraiment d'assez partagé et qui me semblait être un empêchement important, c'était justement cette impossibilité ou cet empêchement ou cette difficulté à aller vers l'inattendu de la rencontre. Non pas qu'il faille absolument que la rencontre amoureuse ce soit un truc, voilà, le mythe du coup de foudre qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir, parce qu'il y a aussi une mythologie qui du coup nous enferme et nous empêche beaucoup et qui, je pense,
Le romantisme.
voilà, exactement, est un frein énorme à la rencontre amoureuse. On est vraiment coincé dans cette mythologie-là du coup de foudre. Mais l'idée plutôt que ce qui va, je pense, être coincé un peu dans la rencontre amoureuse, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui vont par exemple avoir beaucoup de certitudes, alors à plusieurs niveaux. Déjà sur eux-mêmes, c'est vraiment cette idée d'avoir une définition de soi qui est figée. On va se dire, ben voilà, moi je suis comme ça, pas autrement. Moi j'ai telle qualité, tel défaut, et puis ça bougera pas. Donc il y a beaucoup de certitudes sur soi. Il y a aussi beaucoup de certitudes sur la personne qu'on aimerait rencontrer, avec l'idée. Alors ça c'est aussi vachement maximisé par les fiches qu'on remplit effectivement sur les apps et sur les sites de rencontres. Il y a une taille, il faut qu'il aime les sushis et la musique brésilienne, mais que par contre, faut pas qu'il aime la cuisine, il ou elle. Hein, pardon,
Oui.
la cuisine taïwanaise, par exemple, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a des critères comme ça qui sont hyper, hyper précis aussi sur l'autre, et des critères qui sont extrêmement précis aussi sur la rencontre amoureuse. Par exemple, le lieu, il y a des lieux où ça pourrait être glamour de se rencontrer, et puis des lieux où ça ne va pas du tout être l'endroit de la rencontre, à tel point qu'il y a même des gens qui m'ont raconté, parce que c'est dans mon livre, effectivement, comme vous disiez, il y a beaucoup de témoignages, c'est une enquête que j'ai mené sur plusieurs années, donc j'ai interviewé pas mal de personnes. Et je me souviens par exemple de cette personne qui me disait avoir rencontré une femme qui lui plaisait beaucoup, mais alors c'était dans une station-service. Et pour lui, c'était inimaginable de rencontrer quelqu'un dans une station-service. Donc ça a du coup complètement bloqué la possibilité de la rencontre parce que le lieu n'était pas adéquat en fait à l'idée qu'il se faisait de la représentation de la rencontre amoureuse, à sa représentation de la rencontre amoureuse. Donc ça, c'est vraiment aussi les certitudes sur la rencontre et même sur les émotions ou les sensations qu'on devrait vivre
Avoir
pendant
à
la
la première,
rencontre
ouais.
amoureuse. La
Ouais.
rencontre amoureuse. Les papillons dans le ventre, les mains moites, pas savoir quoi dire, penser à l'autre tout le temps et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des clichés, même sur notre vécu interne, quand on rencontre quelqu'un. Ce qui fait qu'après, moi, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, j'ai rencontré quelqu'un de super, elle est top, elle me plaît, on se raconte plein de choses, je suis bien quand je suis avec elle, mais j'ai pas de papillon dans le ventre. Bah, du coup, je ne sais pas si je suis amoureux ou pas. Voilà. Et c'est vraiment des clichés qui nous coincent parce qu'en fait, on veut cocher tellement de cases par rapport à toutes ces certitudes, donc sur soi, sur l'autre, sur le lieu de la rencontre ou la manière dont devrait se passer la rencontre, que finalement, on va passer à côté de beaucoup de rencontres amoureuses. Et ça, je pense que c'est vraiment commun, quel que
Ouais.
soit le sexe, le genre, même l'orientation sexuelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez général que j'ai pu constater.
J'ai l'impression même que par moments cette envie un peu de tout contrôler d'une certaine manière, c'est aussi une manière de se protéger
Bien sûr.
et d'éviter parce que on entend aussi beaucoup parler de déception sur les applications de rencontre. Donc on s'investit pas mal pour une personne, on fait une rencontre, deux, trois rencontres et puis tout d'un coup patatras, disparition, ghosting, que sais-je.
Oui,
Et en
oui.
général, on va se retourner, on va analyser tous les comportements qu'on a eus de manière un peu rationnelle et on va dire, bon, bah, alors je fais plus comme ceci, je fais plus comme cela. Donc j'ai l'impression aussi que ces comportements sont là pour éviter de réouvrir des blessures ou carrément d'en
Mais
créer.
complètement. Tout à fait, vous avez complètement raison de préciser ça. C'est-à-dire que ce besoin de certitude, déjà, il est assez naturel. On a tous besoin, en tant qu'individu, d'identifier des repères, d'avoir des certitudes à certains endroits. C'est comme ça qu'on s'oriente dans le monde. Sinon, le monde serait terriblement angoissant si on n'avait pas du tout de certitude. Donc, déjà, on a besoin de ça. En plus, on est dans un monde où il y a énormément d'incertitudes écologiques, économiques, sociales. Il y a énormément de personnes qui sont touchées par la précarité de l'emploi. Voilà, donc du coup, on a déjà tellement d'incertitudes que là où on peut avoir des certitudes, ben, on en a besoin pour se rassurer, parce qu'on a besoin de ça, c'est sécurisant, les certitudes. Et puis encore plus dans la relation amoureuse, où effectivement, les certitudes, on va avoir l'impression que ça va être une manière de se protéger de la souffrance amoureuse, de la déception, de l'impuissance aussi. Avoir des certitudes, c'est aussi avoir une sensation de maîtrise sur la rencontre amoureuse et sur la personne qu'on va rencontrer. Donc ces certitudes-là, je veux dire, elles sont pas, je les juge pas négativement en soi. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça organise notre rencontre. Avec l'autre. Comment est-ce que ces certitudes, elles nous rassurent, mais comment est-ce que peut-être elles empêchent pour une partie, ou en tout cas pour certaines certitudes, la rencontre avec l'autre, comment elles empêchent d'être pleinement en relation avec l'autre, comment elles empêchent peut-être de nous montrer, nous, de manière sincère ou authentique, ou comment, voilà, en fait, comment ça organise et peut-être ça ampute un petit peu la rencontre amoureuse de spontanéité ou de liberté ou de cet inattendu là dont je parlais qui est quand même nécessaire parce que quand on rencontre quelqu'un, l'autre, il est forcément inattendu parce qu'on ne va jamais l'avoir rencontré déjà. jamais dans cette situation-là, même s'il ressemble à notre ex, ou même s'il ressemble à quelqu'un, notre meilleur ami, ou à quelqu'un qu'on connaît bien, et ben en fait, forcément, il est différent. Et de toute façon, même au fur et à mesure de la rencontre, il y aura de l'inattendu, parce que ça, c'est le principe de l'altérité, c'est qu'on ne peut pas complètement connaître l'autre, on ne peut pas complètement maîtriser l'autre, et tant mieux, parce que c'est ça qui est beau dans la rencontre avec l'autre. Donc cet inattendu-là, c'est aussi une source d'émerveillement, une source de pouvoir mieux se connaître, mieux se rencontrer, de dissiper aussi les malentendus. Donc il y a forcément de l'inattendu. Donc nos certitudes, elles ne vont pas nous empêcher l'inattendu qui est lié à l'altérité même de la rencontre avec l'autre.
Et quel conseil alors donner à une personne qui a l'habitude d'essayer de vraiment, entre guillemets, très bien choisir les profils qu'elle va rencontrer, ou en tout cas essayer de tout maîtriser avant de pour éviter justement l'inattendu. Quel conseil donner à ce type, à ces personnes-là pour qu'elles aillent à des rencontres de manière un peu plus ouverte, on va dire?
Alors, la première chose, ce serait déjà de regarder, de faire un petit peu un point sur nos certitudes qui nous empêchent, de quelles certitudes j'ai absolument besoin, et puis celles sur lesquelles, par exemple, je peux être un petit peu plus souple, ou je peux laisser de l'ouverture, en tout cas. Et puis ensuite, je pense qu'il y a vraiment un truc aussi sur le temps de la rencontre, c'est-à-dire aussi se laisser le temps. D'être un petit peu bousculé, de vraiment le côté slow dating, quoi. C'est-à-dire qu'on ne saura pas tout de l'autre pendant la première rencontre, on ne va pas non plus pouvoir tout dire de soi, mais c'est laisser de la place à un peu de souplesse. La difficulté aussi, c'est que dans le dating, en tout cas de ce que je peux entendre de mes patients, c'est comme s'il fallait vite avoir un avis. C'est-à-dire qu'il faut vite donner une
Exactement.
réponse. Voilà, faut vite dire à l'autre, faut vite déjà très vite se dire est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, ou est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle me plaît pas,
J'ai
et
l'impression que la
très
phase
vite.
de l'engagement, on veut vraiment
Ouais.
la rapprocher le plus tôt possible et qu'on veut raccourcir cette phase qui, pour moi, dont on ne peut rien faire et qu'il faut laisser telle quelle. C'est la phase où on apprend à se connaître, la phase de découverte,
Exactement.
d'ajustement, de vous parlez-vous du fait d'apprivoiser l'autre. Et c'est vrai que souvent, la première rencontre, et même par moments, les 5 premières minutes de la première rencontre.
Exactement, ou même le premier regard, c'est-à-dire tout de suite, je l'ai vu et en fait, non, je me suis dit ça n'allait pas le faire
Et là,
et
on
ça
prend une
colore tout
décision
le
et boum, on devient
rendez-vous.
rigide.
Exactement, c'est
Exactement.
exactement ça qui se passe. Ouais. Et ça, c'est
Et
vraiment dommage.
ouais, c'est typiquement, donc je suis content que vous le disiez, même si j'avais bien compris que c'était l'un des conseils que vous donniez dans votre bouquin, mais un des grands conseils que je donne, et là, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices, c'est. Moi, je conseille quasiment tout le temps, sauf vraiment quand il y a ce que j'appelle des gros red flags. Donc, par exemple, le mec ou la nana dit qu'elle veut uniquement une histoire légère, ou bien que dans une semaine, elle part vivre pendant 3 ans à Taïwan pour continuer avec Taïwan. De toujours aller à la seconde rencontre, voire à la troisième, mais au moins de se laisser 4, 5 rencontres pour découvrir l'autre. Et très souvent, le retour que j'ai, c'est que la deuxième rencontre, c'est souvent comme si on redécouvrait une personne
Eh oui, ah
vis-à-vis de la
ouais.
première.
Bah, tout à fait, d'autant plus que souvent, il y a quand même un énorme stress hein, qui est mis sur la première rencontre. On n'est
Exactement,
pas
oui.
hyper naturel,
Ah
d'autant
oui.
plus qu'on a tellement voulu contrôler avant. Bah, du coup,
Ouais.
on a en fait, parce que paradoxalement, ce besoin de certitude qu'on a très fort, ce besoin de contrôle qu'on a, à la fois sur soi, comment je m'habille, ce que je vais dire, les sujets de conversation qu'on va aborder, qu'est-ce que je dis de mon histoire perso aussi ou pas, qu'est-ce que je dévoile ou pas de moi. En fait, toutes ces certitudes, paradoxalement, on les met en place pour nous rassurer, mais en fait, ça augmente encore plus l'anxiété de la première rencontre.
Et
Parce
finalement, on
que.
perd beaucoup plus de temps comme ça, en plus, à faire plein de petites rencontres sans vraiment découvrir l'autre.
Eh oui, aussi, probablement, tout à fait. Parce que du coup, on rencontre pas vraiment la personne, en fait, on se laisse pas ce temps-là.
Et puis le processus que j'observe souvent, c'est on fait plein de premières rencontres, mais où on prend une décision très rapide comme ça, et ça augmente un peu nos certitudes. Et du coup, de plus on avance en général, et plus on va resserrer les critères. Ok, lui il est comptable, je ne me suis pas du tout marré la dernière fois, donc tous les comptables ils sont pas rigolos. Next. Ce genre
Exactement.
de conclusion que je considère comme étant un peu hâtive.
Et ce mot que vous venez d'utiliser, c'est vraiment important, le mot next. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est assez symptomatique, justement, de l'esprit du temps par rapport au dating. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout de suite, ce flash, amoureux, mais parce qu'on est pris, hein, dans ce mythe du coup de foudre. Et du coup, dès qu'il n'y a pas ce flash, c'est allez, next. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas du tout la chance à la rencontre et à ce qui va pouvoir se dévoiler à la fois de l'autre, de ce qu'on va rencontrer de l'autre, qu'effectivement, peut-être c'est un comptable, mais en fait, si ça se trouve, il a des passions complètement what the fuck à côté, hyper original, ou il va être hyper rigolo sur certains trucs et on va
Et
juste pas
qu'il
du
n'ose
tout.
peut-être pas montrer au début pour pas paraître, pour se
Complètement.
mettre dans un moule, quoi.
Tout à fait, ou parce qu'il est très stressé aussi, lui, par,
Ouais.
well, par la première rencontre. Et puis, on ne laisse pas la possibilité à, quand il y a une rencontre, quelle que soit la rencontre, là, on se rencontre, vous et moi, Antoine, il y a forcément quelque chose de nouveau qui se crée entre nous. Et c'est le temps qu'on va passer à, ben voilà, à s'apprivoiser, à se découvrir, à voir un peu comment est l'autre, comment il parle, ce qu'il dit de lui et tout ça. Ça va aussi nous faire découvrir une part de nous qui juste jusque-là était pas forcé, enfin qui va se dévoiler dans cette rencontre-là singulière et particulière. Et c'est ce temps-là, en fait, vraiment de l'entre-deux, de ce qui se passe entre nous deux, qui crée quelque chose de singulier dans la relation. Et donc ce temps-là, on ne peut l'avoir que si, bah, si on se laisse la possibilité, en fait, d'être ouvert à l'autre.
Donc on pourrait dire éloge de l'inattendu, mais aussi de la lenteur.
Et oui, et
De,
du temps,
du,
ouais.
voilà. Y a, moi, c'est une métaphore que j'utilise souvent, mais c'est dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui arrive en premier. Elle prend le temps de bien faire les choses, et je pense que dans la rencontre, c'est à peu près pareil. Mais ok, hyper
Oui,
intéressant.
et une dernière chose aussi, ce qui est
Oui.
important, c'est que en fait, c'est quand on rencontre en dehors des apps et des sites internet, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, vous êtes
À
à la
l'école.
cafette, à l'école ou à la cafette de votre boulot ou quoi, d'abord vous allez repérer quelqu'un de loin ou on va vous présenter quelqu'un et vous allez avoir un petit truc de dire ah, en fait, ah bah, il a l'air sympa ou il me plaît bien ou elle me plaît bien. Et puis après, on va se recroiser dans les couloirs et puis après, on va aller regarder ce qu'il fait exactement dans la boîte. Ou... Vous voyez, et en fait, ce temps-là, ce n'est pas un rendez-vous. Et dans les 30 premières secondes, je suis censée dire est-ce qu'il me plaît ou pas? Ça se construit, en fait. Et ça,
Ouais.
c'est tout le jeu aussi de la séduction qui se fait au fur et à mesure.
Ouais, et mais qui est aussi certainement accéléré par la profusion de profils qu'on retrouve sur les sites et applications de rencontres. J'avais lu une théorie d'un homme qui s'appelle Barry Schwartz qui parle du paradox of choice. Donc, il dit que
Exactement.
face à un trop grand éventail de choix, en général, on stresse pour faire un choix. Ça peut même nous paralyser. Et quand on prend une décision, on peut regretter celle qu'on n'a pas faite. Et donc, on peut se retrouver dans un espèce de cycle infernal, surtout sur ces apps de dating, où il y a plein de profils, on peut rencontrer plein de personnes, et on se dit, tiens, en fait. Et il y a souvent, j'ai l'impression aussi, dans cette idée dans ce romantisme qui nous imprègne tous, surtout chez nous les Latins, d'une forme de fatalité, c'est-à-dire, bon, ben, soit ça le fait tout de suite et ça le fera jamais. Donc, si on couple les deux, j'ai l'impression que ça favorise le zapping ou le nexting.
Oui, tout à fait. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses importantes. Il y a effectivement, la première chose, c'est que sur les apps et les sites internet, en fait, mécaniquement, on est obligé de gérer le flux de rencontres, parce qu'en fait, il y a tellement de monde que de fait, on est obligé de cocher des cases.
Ouais.
Donc, d'augmenter un peu les certitudes qu'on va avoir sur l'autre. Il y a aussi qu'on remplit, nous, notre propre fiche descriptive. Et qu'en fait, ça nous amène à avoir beaucoup de certitudes aussi sur nous-mêmes, de dire, voilà, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Et ça augmente encore plus les attentes très figées qu'on va avoir sur l'autre. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, un biais embêtant des sites et des applis, c'est que ça va vraiment augmenter cette. Cette attente très fixée sur soi et sur l'autre dans la rencontre amoureuse. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que sur ce que vous disiez par rapport au romantisme, c'est, je pense qu'en fait, on est coincé entre deux modèles. À la fois le modèle romantique du coup de foudre, où on devrait avoir une espèce d'évidence comme ça qui nous tombe dessus à la seconde où on rencontre l'autre, qui est aussi accentué par la société de consommation avec l'idée que, en fait, nos envies, nos émotions doivent nous mener de manière compulsivement à l'acte d'achat. Donc, c'est comme si on devait suivre immédiatement et qu'il devait y avoir des émotions qui devaient nous submerger dans la rencontre avec l'autre. On est aussi formaté par ça. Donc, du coup, il y a à la fois d'un côté ce mythe un peu de l'immédiateté, on doit se plaire
Le
immédiatement
Uber Eats de
à
l'amour.
une. Et voilà, absolument évidente. Et à contrario, on est pris dans un autre modèle qui est l'opposé total, et c'est ça qui nous coince, c'est l'idée que un couple solide, un couple qui va durer, ça doit être un couple un peu réfléchi, posé, où on doit bien avoir pesé les pour et le contre, et les
Rationnel.
contre, voilà, bien rationnel, ça, et que ça va durer dans finalement dans le temps. Donc on est pris entre le côté passionnel du coup de foudre de la rencontre qui se fait immédiatement et le côté très rationnel, réfléchi et posé de l'idéal du couple qui va durer. Et finalement, au moment de la rencontre amoureuse, on oscille en permanence entre ces deux modèles en sachant pas finalement lequel doit primer sur l'autre et ça nous coince complètement.
Et on peut même rajouter deux autres injonctions contradictoires que moi j'entends souvent. C'est d'un côté, c'est cool d'être célibataire, faut kiffer, faut profiter. De l'autre côté, ah putain, t'as 32 balais, t'es toujours pas en couple, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Et oui, et encore plus pour les femmes, où il y a
Encore plus
une
pour les
pression
femmes.
sociale extrêmement forte.
Ben, justement, bon, je voulais y revenir plus tard, mais je vais tout de suite rebondir là-dessus. J'accompagne pas mal de femmes qui sont dans un stade que j'appelle le stade de la première union, dont leur objectif est de fonder un foyer, donc d'abord de vivre un couple, de tomber amoureux, puis ensuite de fonder un foyer. Et j'en accompagne pas mal qui viennent me voir, qui en gros on va dire, ont plus de 35 ans, entre 35 ans et 45 ans. Et donc, pour des raisons à la fois biologiques, mais aussi pour ces injonctions sociales que je viens de citer, beaucoup d'entre elles ressentent une énorme pression qui, par moment, même souvent, peut se créer un moment de panique, d'empressement aussi, que j'estime de loin être un peu contre-productif. Quel conseil vous pourriez donner à ces personnes-là pour essayer à la fois d'atteindre leur objectif tout en réduisant un peu cette grosse pression qu'elles peuvent subir, qui en effet, je pense, est très spécifique aux femmes, là, en l'occurrence.
Alors ça, c'est vraiment une question difficile
Ouais, je suis d'accord. Un peu
parce
la
qu'il y
question.
a, y a, y a une réalité biologique. Alors qu'effectivement, la pression est plus mise sur les femmes, mais en fait, elle concerne aussi les hommes, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une baisse de fertilité chez les hommes avec l'avancée en âge. Il y a aussi des difficultés qui peuvent se poser chez les hommes au fur et à mesure du fait d'avancer en âge aussi. Donc même si la pression, elle va être mise extrêmement fortement sur les femmes, finalement, les deux
Oui.
sexes sont quand même concernés, même si bien sûr il y a une réalité biologique qui est quand même très concrète chez les femmes avec la question de la ménopause et puis de la baisse de la production des ovocytes. C'est une question qui est compliquée parce que effectivement, là, les femmes sont prises dans une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'idée de faut pas que j'y pense parce que sinon je me mets un stress et je mets un stress sur l'autre, enfin je crains de mettre un stress sur l'autre. Donc il faut surtout pas que j'y pense, mais en même temps je ne peux pas faire autrement que d'y penser parce que tout le monde me met la pression et qu'il y a une réalité biologique et que si vraiment j'ai envie d'avoir des enfants, il faut que je me pose la question. Donc c'est. Je pense que à cet endroit-là, c'est vraiment important d'avoir effectivement d'avoir un soutien, un suivi thérapeutique pour détricoter qu'est-ce qui fait ce désir d'enfant, voilà pour aussi peut-être se libérer aussi des injonctions parce que parfois l'injonction, elle va être familiale ou elle va être sociale et que peut-être ça correspond pas finalement au désir de la personne. Ou
Ouais.
en tout cas de pouvoir libérer un peu la pression à cet
Ouais.
endroit-là, mettre un peu la distance, peut-être aussi apprendre à dire, parce que c'est pas si facile, il y a plein de personnes qui n'osent pas dire aussi, je sais pas, ne serait-ce qu'à la famille, écoutez, lâchez-moi avec cette histoire d'enfant, c'est suffisamment difficile à vivre, vous n'allez pas en plus m'en parler tous les dimanches à chaque fois que je viens déjeuner, par exemple. Donc ça peut être aussi de chacun d'apprendre, enfin de se laisser l'autorisation ou de voir comment est-ce qu'on peut trouver l'autorisation pour dire aux personnes qui mettent trop la pression de nous lâcher avec ça. J'accompagne aussi pas mal de femmes qui font de la préservation d'ovocytes.
Oui, j'allais en parler.
Voilà pour justement pouvoir se donner plus de temps
Ouais.
ou parce que pour certaines, il y a aussi une raison médicale à cette démarche-là. Je pense que c'est À titre personnel, je trouve que c'est effectivement une super opportunité.
Ouais, je
Je
suis
voudrais
d'accord.
juste alerter sur le fait que c'est pas si facile. Les femmes que j'accompagne, ça fait quand même traverser des questionnements psychologiques qui sont pas si évidents, notamment quand on est célibataire, et que je pense que ça peut être intéressant aussi à cet endroit-là, quand on traverse ce type d'accompagnement médical, de pouvoir être accompagné psychologiquement.
Et surtout, si je me trompe pas, on peut pas vraiment le faire en France, non?
Ah si,
Si?
c'est possible, oui. La
Ok.
préservation de vos sites, si, c'est possible.
Ok. Ok, super. Ouais, non, c'est en effet, c'est aussi quelque chose que. Alors moi, je l'ai découvert parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'en ont parlé. Et du coup, je me suis intéressé à ce sujet-là et je pense qu'en effet, c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Mais si j'ai bien compris, il faut pas trop attendre non plus. C'est-à-dire que il faut le faire à partir de. Le mieux, c'est de le faire quand on a moins de 35, 36 ans, si je dis pas de
Alors ça, je ne
bêtises.
saurais pas vous dire parce que c'est vraiment, je suis pas médecin, donc c'est
Ok.
vraiment pas ma spécialité. Je voudrais pas dire de bêtises. Parce que, non, ce que je voulais juste dire, c'est alerter sur le fait que, en fait, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement psychologique qui est
Oui,
proposé
en
par les
parallèle, ouais.
hôpitaux, voilà. Et que ce que je constate des personnes que j'accompagne qui ont vécu ça ou qui vivent ça, c'est qu'en fait, ça fait naître quand même beaucoup de questionnements sur sa place dans le monde, ce que j'attends du couple, ce que j'attends éventuellement du fait d'avoir des enfants, ma position en tant que femme, des enjeux aussi existentiels sur la question de la finitude, de la solitude, voilà. Et que je pense que ça me semble vraiment important à ce moment-là d'être accompagnée par un psy.
Je suis d'accord. Dans un de vos chapitres, un de vos chapitres s'appelle L'art de rater les rencontres.
Oui.
Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de cette idée. J'ai trouvé ce chapitre hyper intéressant et je trouve que le titre, c'est le type de titre qu'on lit pas souvent. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se cache derrière ça?
Oui, en fait, ce que j'avais constaté, alors j'avoue que je ne me souviens plus exactement ce que je dis dans ce chapitre-là, mais en tout cas, ce que j'avais constaté, c'est que il y avait souvent, au moment de la rencontre amoureuse, soit une projection très forte sur l'avenir, mais sur un mode catastrophiste, avec l'idée de non, mais de toute façon, ça va forcément mal se passer parce que moi, je rate toujours tout avec les personnes que je rencontre, ou. Je ne sais pas, des croyances qu'on va avoir sur le type enfin, par exemple sur les hommes, sur les femmes, voilà, ou sur le couple, typique, non, mais de toute façon, un couple, l'amour dure 3 ans, alors au bout de 3 ans,
Ouais.
forcément, ça va commencer à partir en cacahuète, ou voilà,
Après,
mais
ça devient des
sur le
prophéties
mode.
autoréalisatrices un peu.
Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Soit donc vraiment la rencontre dans le sens où elle va être colorée soit de la catastrophe à venir sur un mode anxieux, soit de l'échec passé avec l'idée de non mais de toute façon moi j'ai toujours foiré mes couples, ou alors on m'a toujours trompée, ou alors de toute façon moi au bout de 3 semaines je me fais tout le temps larguer. Enfin voilà, c'est-à-dire que à partir de l'expérience vécue, malheureusement, enfin négativement en tout cas mal vécue dans le passé, on va en faire là encore une prophétie autoréalisatrice. Sur la rencontre amoureuse, avec cette idée en plus que tout est déjà vu, tout est déjà prévu. C'est-à-dire que la rencontre amoureuse, de toute façon, ça s'est mal passé, ou je prévois que ça va mal se passer, donc bah, fatalement, ça se passe mal. Donc en plus, ça conforte encore plus l'idée que je me fais que la rencontre amoureuse va mal se passer. Et pour ça, moi, j'essaye, en tout cas en thérapie, un des axes de travail qu'on va avoir, c'est justement d'un peu décadenasser. Ces certitudes-là qu'on a, par exemple, quand par exemple, quelqu'un qui va me dire, mais de toute façon, je pense à un exemple qui va revenir assez souvent, de toute façon, moi, une femme qui peut dire, moi, je tombe toujours que sur des hommes qui sont pas disponibles. Moi, je
Ça,
suis
c'est.
la fille qui tombe toujours sur des mecs pas dispo. Ben, en fait, on va regarder cette certitude-là, d'être tout le temps avec des hommes pas disponibles, concrètement, les expériences passées, comment ça s'est passé? Alors, bah, par exemple, ça va être bah, la première personne que j'ai rencontrée, bah, en fait, il était en couple. Il était marié, il ne m'avait pas dit, donc bah, forcément, il n'était pas disponible. Voilà, ok, ça c'est un type d'indisponibilité. La deuxième personne, deuxième couple que j'ai formé, en fait, c'est quelqu'un qui avait un poste à l'international, qui était tout le temps en voyage, donc qui partait 3 semaines et puis il revenait 3 semaines en France, et donc bah, pendant 3 semaines, il était parti. Ah, bah, tout de suite, ce n'est pas tout à fait la même
Ouais.
indisponibilité, en fait, ce n'est pas la même chose qui se joue. Et en fait, on va pouvoir se rendre compte que, par exemple, cette personne était très engagée dans le couple, mais que voilà, son métier faisait que bah, toutes les 3 semaines, il partait à l'étranger, et qu'à ce moment-là, il était extrêmement occupé, le décalage horaire, tout ça, donc pas vraiment possibilité de pouvoir se parler longtemps au téléphone, ou, voilà. Donc tout de suite, ça nuance un petit peu l'indisponibilité. Et par exemple, on va regarder un troisième exemple de couple que cette personne a vécu, et c'était un homme qui était en garde partagée. Donc, bah, une semaine sur deux, il a fait ses enfants à la maison. Et du coup, bah, c'était moins possible de venir dormir chez elle. Au début, en tout cas, elle ne pouvait pas venir dormir chez lui parce que le temps que le couple s'installe, il ne voulait pas présenter ses enfants tout de suite, voilà, pour des raisons X ou Y. Mais voyez, en fait, on se rend compte que de la phrase un peu généralisatrice et globale qui dit « Moi, je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas dispos », en fait, les types d'indisponibilité étaient différents et l'engagement dans le couple était complètement différent. C'est-à-dire les hommes, les expériences amoureuses qu'elle a eues, c'était avec des hommes qui s'engageaient de manière différente. C'est pas du tout pareil de ne pas pouvoir envisager un couple, disons, officiel parce qu'on est déjà engagé ailleurs, que d'avoir ses enfants en garde partagée une semaine sur deux et de dire bah, j'ai besoin d'un petit peu de temps avant de te présenter à mes enfants. C'est pas du tout la même indisponibilité. Et du coup, en fait, le fait de mettre, juste pour finir,
Non,
le
non,
fait
c'est
de
hyper
mettre ces
intéressant.
nuances-là, parce que le problème, c'est que ça ferme complètement l'avenir. Quand on a comme ça une généralisation sur le passé, ça colore complètement l'avenir et ça le ferme complètement. C'est
Et on met
comme
même
si tout à
des
coup...
lunettes un peu qui vont, des lunettes déformantes qui vont venir zoomer à chaque fois ou chercher quelque chose qui pourrait ressembler à de l'indisponibilité, quoi.
Exactement, on va aussi configurer d'une certaine manière la relation à l'autre en cherchant, parce qu'on a tellement peur de tomber sur quelqu'un d'indisponible, qu'effectivement on risque de chercher particulièrement ça. Dans le sens de voir effectivement, comme vous disiez, le moindre petit signe, ça va être un signe d'indisponibilité et du fait que c'est pas possible et tout ça. Et le fait de mettre de la nuance finalement dans les expériences passées, ça réouvre l'avenir en fait, c'est-à-dire que ça réouvre les possibles. Et ça fait que on n'est pas prisonnier d'une fatalité, on n'est pas prisonnier d'un truc qui se répète indéfiniment, mais l'avenir est possiblement différent de ce qu'on a vécu par le passé. Et du coup, bah, il y a toute une possibilité, il y a plein de choses possibles, il y a plein de choses à inventer.
C'est super intéressant en effet parce que cette phrase, on l'entend très souvent. Je tombe beaucoup uniquement sur des hommes indisponibles. Ou aussi, à l'autre version, je tombe que sur des connards. Et
Oui.
on l'entend de pareil hein, de l'autre côté aussi, hein, du côté des hommes. Vous faites des thérapies de couple.
Oui.
Et bien évidemment, en conservant la confidentialité de vos patients, mais est-ce qu'il y a des. Quels sont les. Est-ce que vous voyez des problématiques assez récurrentes aujourd'hui dans les couples? Des sujets récurrents sur lesquels on vous demande de l'aide?
Alors, bah, en fait, les gens, quand ils arrivent en thérapie de couple, le symptôme qu'amène en thérapie de couple, il peut être hyper varié. Ça peut être des questions de sexualité, de ne pas réussir à s'entendre sur le rythme, de ne pas avoir de projet commun, de pas de voilà, des engueulades sur des détails, des problèmes avec la belle-famille, des difficultés avec les enfants. Enfin, ça peut être vraiment très, très, très varié. Ça, c'est ce qu'amène en thérapie. Et ensuite, tout le travail de la thérapie de couple, c'est de regarder en fait ce qui se joue derrière ce symptôme évident. Est-ce que c'est bah, quelle vision du monde on a encore en commun, quelle envie commune on a encore, quel projet on a encore ensemble? Un des symptômes aussi qui peut amener souvent, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui arrivent en disant on communique mal, on ne sait pas communiquer. Avec l'idée que déjà l'idée qu'il y aurait un peu une communication idéale où on pourrait tout se dire et tout entendre de l'autre sans qu'il y ait aucune interférence, ce qui est absolument impossible parce qu'entre ce que dit l'autre et ce que moi je vais en
Qu'on
faire, ce que je vais
entend,
en
oui.
entendre, voilà, il va y avoir forcément toute une interprétation des choses, mais aussi l'idée qu'il pourrait y avoir une communication complètement dénuée d'affect où on se passerait des informations un peu comme des faits et que l'autre pourrait complètement les entendre. Et souvent, les problèmes de communication, en fait, c'est pas tellement qu'on ne se dit pas les faits, c'est qu'en fait, on ne se les dit pas de manière affectée. On ne se dit pas en fait ce qu'on vit profondément, ce que ça nous fait vivre comme angoisse, comme inquiétude, comme je sais pas, comme remise en question personnelle, comme espoir aussi, comme envie. On va avoir une engueulade, pour prendre un exemple très concret, sur bah, je t'avais dit que je partais en week-end avec des copines ou des copains, et bah non, tu ne m'avais pas dit, en plus tu ne l'as pas noté dans l'agenda commun, donc ça va être, voilà, on va regarder vraiment le côté problème de communication hyper concret, est-ce que je l'ai noté dans l'agenda, est-ce que je te l'ai dit, je recherche le texto, je t'ai bien dit que je partais en week-end ce week-end-là, enfin voilà, alors qu'en fait, Peut-être à ce moment-là, la problématique de fond, ça va être qu'est-ce que j'ai comme inquiétude quand tu pars tout un week-end et que je suis seule? Est-ce que ça va être l'inquiétude d'être seule avec les enfants, de ne pas réussir à gérer, d'avoir cette crainte-là? Est-ce que c'est une inquiétude existentielle autour de la solitude? Est-ce que c'est la crainte qu'on partage plus tant de choses ensemble, la crainte que tu aies une vie tellement riche en dehors de moi et que je sois pas à la hauteur? Vous voyez, ça peut être en fait des choses beaucoup plus profondes, et d'ailleurs c'est souvent des choses beaucoup plus profondes que juste le problème de communication, est-ce que tu l'as mis dans l'agenda commun ou pas? Et ce qu'il y a souvent quand même, ce que je peux constater dans les couples que j'accompagne, c'est que c'est quand même souvent comment est-ce qu'on navigue entre ce qu'on va créer ensemble, ce qu'on va construire ensemble, ce qui va faire le nous du couple et ce qui va nourrir les individualités de chacun dans le couple. Et il y a cette, moi je le représente, c'est un schéma que je fais au couple que j'accompagne, vous savez, ce sigle infini, le 8 à l'horizontale. Si on imagine le croisement au milieu, c'est le nous du couple, c'est tous les projets, toutes ce qu'on va partager ensemble aussi, comme, je sais pas, comme private jokes, comme moments de complicité, comme les petits moments de tendresse, ça peut être des toutes petites choses, vraiment ce qui va constituer le nous du couple. Et puis les ailes du 8, en fait, sur le côté, c'est un peu comment chaque individu, on va se nourrir à l'extérieur, nos boulots, nos amis, nos investissements associatifs, sportifs, que sais-je, nos passions, enfin voilà, qui vont nourrir les individus qu'on est. Et avec l'idée de cet infini à l'horizontale, c'est-à-dire ce qui nourrit les individus va nourrir le nous du couple. Parce qu'on va avoir des choses à se raconter, que ça va nourrir le couple et tout ça. Et puis, à l'inverse, le nous du couple va nourrir qui on est en tant qu'individu à l'extérieur. Et ce que je constate, c'est que souvent, c'est à cet endroit-là que c'est un peu coincé, un peu figé dans les couples. Et c'est souvent pour un truc qui est intéressant à travailler en thérapie, c'est comment remettre de la fluidité, en fait, entre ce qui se vit dans le nous du couple et ce qui va se vivre individuellement, de manière à ce qu'il puisse y avoir ces allers-retours nourrissants et pour l'individu et pour le couple.
C'est super intéressant, c'est une très belle image. Je me permettrai de m'en resservir de temps en temps d'ailleurs. Mais
Avec plaisir.
Et on a l'impression, j'avais invité une fois un sociologue qui parlait de la crise existentielle du couple et globalement aussi d'une que dans nos sociétés, sur les sujets amoureux, il y avait de plus en plus une forme d'anxiété grandissante. Est-ce que vous le constatez vous aussi cette Est-ce que vous avez l'impression, ça fait combien de temps que vous accompagnez des personnes maintenant, combien d'années?
Oh, ça doit faire une dizaine d'années à peu près.
Et est-ce que vous... Parce que moi, c'est quelque chose que je constate en tout cas chez les célibataires, c'est... Par moments, j'ai même envie de parler d'anxiété existentielle, quoi.
Mais oui, parce qu'il y a des questions. Parce qu'en fait, la rencontre amoureuse et le couple, ça nous amène sur des questions existentielles. La question de la solitude. Qui est vraiment, voilà, on est seul à naître et on est seul à mourir dans le monde, c'est notre condition d'humain, et ça, on a beau essayer de tout faire pour ne pas y penser au quotidien, c'est quand même une question existentielle qui nous travaille. La question de la finitude aussi, on est tous amenés à mourir un jour, et on ne sait pas quand, et c'est qu'est-ce que je fais de ce temps qui m'est donné entre la naissance et la mort, comment je l'habite, qu'est-ce qui a du sens, en fait, dans ce temps-là? Donc ça, c'est vraiment une question existentielle aussi. La question du sens de la vie, du coup, qui est amenée. La question de la responsabilité, ça aussi, c'est une question existentielle qui habite énormément le couple et la rencontre amoureuse. C'est qu'on est responsable de ce qu'on fait de notre vie. C'est cette fameuse phrase de Sartre. C'est l'idée que l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais c'est que ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Je suis responsable de mon existence et de ce que je vais en faire. Et ce n'est pas l'autre ou le couple, ou la rencontre amoureuse qui va donner du sens à ma vie, c'est moi, qu'est-ce que j'en fais, en fait, de cette vie-là? Et tout ça, c'est des questions qui sont vraiment des questions fondamentales liées à notre condition d'humain, des questions philosophiques qui nous travaillent et qui traversent pleinement la rencontre amoureuse et le couple.
Ouais, cette liberté, parce que encore à une époque, les institutions choisissaient un peu tout pour nous. Et aujourd'hui, on a cette liberté qui peut par moments être totalement vertigineuse.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la question de la liberté est tout à fait connexe à la question de la responsabilité. C'est qu'à partir du moment où je suis libre de pouvoir faire à peu près ce que je veux, même si évidemment on est toujours dans une liberté contrainte, qu'est-ce que je fais de cette liberté-là? Et ça, c'est vertigineux, en fait. C'est une liberté qui peut être extrêmement angoissante. Avec en plus, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une contrainte qui se rajoute dans la rencontre amoureuse et dans les couples contemporains, c'est la question de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on se met aussi une pression à être authentique dans la relation à l'autre. Et l'inconvénient de l'authenticité, c'est que bah, forcément, elle est variable. Enfin, elle est variable. On va changer.
Oui, on
C'est-à-dire
évolue.
qu'on évolue. Voilà, c'est l'impermanence, en fait. Et du coup, bah, ça crée aussi une sorte de précarité sur le couple, sur la relation amoureuse, qui est que bah, l'autre, ce que j'étais hier, finalement, je ne suis pas sûre de l'être encore aujourd'hui, ça va peut-être bouger, je ne suis pas sûre encore de l'être demain. Et c'est aussi un petit peu par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que auparavant, on était le couple, c'était une institution sociale qui était bah, voilà, régie par un certain nombre de normes sociales, régie par l'Église aussi, régie voilà, par tout un tas d'institutions qui ne dépendaient pas de l'individu et qui du coup, en fait, c'était assez rassurant parce qu'on était
Ouais, on se
complètement
posait pas de
cadré.
questions.
Voilà, on ne se posait
Ça
pas ces
pouvait créer
questions-là.
des, bien évidemment, des situations de tristesse pour un des deux conjoints. Mais en tout
Oui,
cas, c'était
c'était
un
pas
peu,
idéal non
voilà,
plus.
ouais.
Mais en tout cas, il y avait pas une, il y avait moins de pression psychique sur l'individu et moins cette précarité liée à l'authenticité et à la nécessité d'être pleinement qui je suis en permanence et d'autoriser aussi l'autre à être pleinement qui il est. Mais du coup, s'il est pleinement qui il est, bah, est-ce qu'il va pas me quitter ou est-ce qu'il va pas avoir envie? Est-ce que je lui suffis? Parce que du coup, il y a tout le temps cette question de l'insuffisance, de la crainte de ne pas être à la hauteur pour l'autre
Et de
qui
l'utilité de
plane
l'autre, vous en
et
parlez un peu
d'utilité de l'autre.
d'ailleurs.
Exactement, ouais, parce qu'on met aussi dans le couple une pression au développement personnel, c'est-à-dire qu'il faudrait que le couple m'accompagne dans mon propre développement personnel. Donc à la fois on attend que l'autre, quand on le rencontre, qu'il soit parfait, mais il faut aussi qu'il ait un potentiel de développement pour être encore mieux qu'au moment où je le rencontre. Donc bon, tout ça met effectivement beaucoup, beaucoup de pression sur le couple et sur la rencontre amoureuse.
Et c'est ce qui fait, enfin c'est ma théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que des personnes comme vous et moi, aussi depuis quelques années, accompagnons de plus en plus de personnes, parce que autant à une époque on en parlait, il y avait des institutions qui régissaient un peu, il y avait un cadre, on le suivait et puis on se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, il y a cette liberté un peu, on est libre d'être heureux ou de pas l'être, ce qui peut créer beaucoup de pression. On se retrouve seul à prendre des grandes décisions sur plein de domaines d'ailleurs, et on voit dans tous les domaines apparaître les coachs, aussi des psys qui viennent aider dans plein de domaines. Et moi, je voulais vous poser une question sur. J'entends très souvent la phrase de mais j'ai honte de me faire accompagner. J'ai honte d'être là. Normalement, l'amour, c'est censé. Je devrais savoir m'en occuper, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases-là? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez envie de répondre?
Oui, alors effectivement, c'est des phrases que j'entends aussi. Et il y a aussi une autre phrase que j'entends beaucoup, c'est la honte d'être célibataire. Avec
Exactement.
l'idée que j'aurais raté un truc, que j'aurais pas fait comme il faut, que de toute façon c'est de ma faute, c'est que je suis pas assez bien, ou que j'ai pas assez travaillé sur moi, justement, que j'ai pas assez compris, je sais pas ce qui s'était joué dans la petite enfance, ou je fais pas comme il faut dans les codes, ou dans la manière d'être au monde et tout ça. Et je pense que c'est une culpabilisation qui est extrêmement injuste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis. Parce qu'elle fait peser sur les personnes célibataires une pression psychique hyper individualisée. Alors que, bah, on en a parlé là pendant toute l'interview, c'est quand même aussi un fait collectif que c'est difficile de rencontrer quelqu'un, qu'on est pris dans des vignettes culturelles qui en fait formatent la rencontre et qui l'empêchent. On est aussi pris dans des vies qui rendent la rencontre extrêmement compliquée, bah voilà, que finalement c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Et donc je trouve ça extrêmement injuste quand ça se retourne en culpabilisation sur l'individu, au point d'avoir honte d'être célibataire, d'avoir l'impression de ne pas être digne d'être aimé, que de toute façon si moi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, c'est que moi j'ai un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et tout ça. Alors je trouve ça peut être vraiment important à ce moment-là, effectivement, de se faire accompagner quand il y a de la souffrance, parce que c'est faut, ben voilà, pour soulager cette souffrance, pour se sentir moins seul, pour peut-être aussi détricoter toutes ces injonctions qui nous emprisonnent et qui font tellement pression sur l'individu. Après, pour moi, c'est évident, enfin, c'est ce que je dis en tant que psy. Moi, j'ai pas du tout de baguette magique. Je peux pas, évidemment, pas garantir la rencontre. Déjà, c'est pas, absolument pas mon métier. Puis, c'est pas ma vision des choses, mais c'est vraiment de pouvoir soutenir la personne. Ah, pardon, j'ai une horloge avec des sons d'oiseaux. Alors, du coup, c'est un
Il
petit
n'y a
côté
aucun problème.
champêtre qui se rajoute.
C'est sympa.
Et voilà, et c'est vraiment comment est-ce qu'on peut trouver du soutien. Mais le soutien, ça peut être aussi auprès de notre entourage. Auprès des amis, moi, il y a un truc que je trouve hyper soutenant, par exemple, c'est les autres copains célibataires avec qui on va faire des tas d'activités qui ne sont pas forcément centrées sur la rencontre. Ça va être d'aller, je ne sais pas, faire du sport ensemble, partir en vacances ensemble et tout ça, ou aller bah, en soirée ensemble, mais aussi pour sortir de cette solitude et de cette honte qui isole énormément.
Ouais, et ce qui est fou quand même, c'est que on y a jamais eu autant de, on n'a jamais fait autant de rencontres. Ça n'a jamais été aussi facile, d'une certaine manière, de faire des rencontres sentimentales. Mais aussi en même temps, il n'y a jamais eu autant de célibataires comme dans des villes comme comme Paris. Alors que l'amour reste quand même, en tout cas, le couple exclusif reste un horizon ultime.
Oui, alors je ne sais pas si ça a jamais été aussi facile de faire des rencontres. Moi, je n'ai pas tellement cette impression-là. Je trouve que c'est
Ah oui?
super difficile de faire des rencontres.
Alors oui.
Justement parce qu'on est beaucoup moins pris qu'avant dans tout un système social, en fait, qui nous guidait vers la rencontre amoureuse. Avant, bah, voilà, en fait, on rencontrait dans un milieu social, tout était déjà un peu prévu, un peu convenu. D'ailleurs, on se rencontrait principalement dans les mariages des
Ou les
autres, hein, ou
rallyes ou
voilà, exactement, ou ce genre d'institution. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui est telle que finalement, c'est extrêmement difficile de rencontrer quelqu'un.
Je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'est ça n'a jamais été d'une certaine manière aussi simple de rencontrer un inconnu, de se mettre autour d'une table avec lui, de pouvoir
Ah oui,
discuter.
ça oui,
Après
je suis
de
d'accord. Oui.
réellement rencontrer l'autre et d'avoir ça, c'est en effet autre chose.
Oui.
Bah écoutez, c'était hyper intéressant, Cécile. Est-ce que vous aimeriez, avant qu'on se quitte, partager un mot, dire quelque chose à nos auditeurs ou auditrices, ou bien est-ce que vous pensez qu'on a dit l'essentiel?
Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses, effectivement. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Que voilà, que je trouve que cette histoire de rencontre amoureuse, c'est pas si facile et qu'on est aussi pris dans tout un discours qui nous fait croire que ce serait à portée de clic et que en fait, bah non, c'est pas vrai et que si pour
Un
ceux qui le
cheminement.
vivent, c'est un cheminement, effectivement, c'est tout un processus et que pour ceux qui le vivent, celles qui le vivent avec beaucoup de souffrance et de difficultés, qui sachent qu'ils ne sont pas seuls, que c'est très courant et que par contre, ce n'est pas nécessaire non plus de rester tout seul, que ça peut être bien aussi d'être accompagné parce que ça peut être très difficile.
On pourra dire, certaines manières, dans ce type de cas, ça peut être mieux d'être à deux. Écoutez, Cécile, merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. Je vous rappelle rapidement le titre de votre livre, qui, encore une fois, je trouve hyper intéressant, que je vous conseille. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Il y a du Charles Pépin là-dedans, vous savez, ce philosophe qu'on entend un peu de plus en plus, qui parle beaucoup justement de la surprise de la rencontre, l'altérité,
Mais
et
oui,
je
c'est
trouve
drôle parce
que
qu'il a sorti son bouquin sur sur la rencontre, l'inattendu dans la rencontre, quelques mois après le mien. Il y
après
avait
le
une
vôtre, donc
synchronicité
ouais. Non,
sur
mais
les thèmes.
c'est vraiment, je pense que c'est hyper actuel comme sujet à l'heure où on assiste à cette d'une certaine manière à cette ubérisation des rencontres. Et sauf que voilà, là c'est pas des plats ou des taxis qu'on commande. Merci beaucoup, Cécile. À
Merci Antoine.
bientôt. Et puis, je vous remercie encore une fois. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.